L'île de Pâques, deuxième partie. Aujourd'hui encore, nous obtenons du commandant, un de mes camarades et moi, un canot à nos ordres pour nous rendre dès le matin dans l'île, et nous partons au petit jour. Il vente comme hier, et nous avons l'alizé droit debout, ce qui retarde notre marche à l'aviron, nous arrose d'embrun et nous mouille de la tête aux pieds. Non, sans peine, nous atteignons la plage, nous étant un peu trompés de route au milieu des récifs de corail, qui sont plus que jamais bruissants et couverts d'écume blanche. Atabou et les amis d'hier accourent pour nous recevoir avec quelques sauvages de figure inconnue, et je fais parmi ces derniers l'acquisition matineuse d'un dieu en bois de fer au visage triste et féroce, coiffé de plumes noires. C'est la première fois que mon camarade descend à terre, et sur sa demande, je le mène d'abord voir l'antique marail auquel nous avons décidément tenté aujourd'hui d'enlever une statue. Des gens nous suivent en grande troupe ce matin à travers la plaine d'herbage mouillé, et arrivés là-bas, se mettent à danser sur les dalles funéraires et sur les idoles couchées, à danser partout comme une légion de farfadets, échevelés légers dans le vent qui siffle, nus et rougeâtres, bariolés de bleu, corps svelts et clairs parmi les pierres brunes et devant les horizons noirs. Ils dansent sur les énormes figures, heurtant de leurs doigts de pied, sans bruit, les fronts des colosses, les nez ou les joues. Mais on n'entend guère plus qu'ils chantent dans le fracas toujours croissant des rafales et de la mer. Les hommes de Rapa Nui, qui vénèrent tant de petits fétiches et de petits dieux, paraissent tous sans respect pour ces sépultures. Ils ne se souviennent plus des morts endormis là-dessous. Nous retournons ensuite à la baie déjà familière où sont les cases de roseaux, et là je commence à circuler d'une manière moins pompeuse qu'hier, en petit cortège maintenant, accompagné de mes seuls intimes comme quelqu'un qui serait déjà du pays. Des hommes qui me croisent se bornent à me toucher la main ou à me faire un signe amical en continuant leur route. « Laorana Tayo, bonjour mon ami !» me disent la chef-fesse et sa fille qui sont dans un champ à arracher des patates douces et ne se dérangent plus de leur besogne. Le vieux chef me reçoit dans une caverne attenant à sa demeure où il passe sa vie accroupi, les mains jointes sous ses genoux, bleuis de tatouages. Avec sa figure rayée de bleu sombre, ses longs cheveux, ses longues dents et son habitude de s'immobiliser dans des poses de bête, il serait d'apparence affreuse sans la douceur extrême de son regard. Mais je ne sens plus l'intéresser particulièrement, et j'abrège ma visite. Désirant emporter une de ses coiffures en plumes noires, d'un mètre de largeur, comme j'en ai vu sur la tête de quelques vieux personnages difficiles à aborder, je m'en ouvre à Ouga, celui qui comprend le mieux mes phrases hésitantes, et nous commençons ensemble nos recherches. Il m'introduit alors dans plusieurs cases où sont accroupis des ancêtres à figure bleue et à dents blanches, immobiles comme des momies, et qui d'abord ne paraissent pas remarquer ma présence. L'un d'eux, cependant, est occupé. Il arrache les dents à une mâchoire humaine pour remettre des yeux d'émail à son idole. Il a en effet accroché sous la toiture de très grandes couronnes de plumes. Mais les vieillards en demandent des prix fous. Mon pantalon de toile blanche et ma veste d'aspirant avec ses galons d'or. Ma veste neuve, puisqu'hier j'ai vendu l'autre. Oh non, c'est trop cher, il faut y renoncer. Et Ouga, me voyant désolé, me propose d'en réparer pour ce soir une un peu ancienne, un peu usée qu'il possède chez lui, et de me la céder en échange d'un pantalon seulement, ce que j'accepte. Allons maintenant faire un vieux Robinson danois, notre visite depuis hier promise. Les abords de sa maisonnette à eux seuls sont déjà pour serrer le cœur, avec ce semblant de véranda, ce semblant de petit jardin, ou pousse quelques maigres plantes dont il a dû apporter les graines. Quel exil que celui de cet homme, qui, en ce pays presque vide, n'a même pas un bouquet d'arbres, même pas un peu de verdure où reposer sa vue. Et en cas de détresse, de maladie ou de menace de mort, aucune possibilité de communiquer avec le reste du monde. Il est parti dès l'aube pour la chasse aux lapins, nous explique avec mille grâces et en nous priant d'entrer quand même, son épouse Morganatique. Une Maori entre deux âges et plutôt fanée, qui est naturellement la grande élégante de l'île et qui porte ce matin une tunique en mousseline aune, avec une couverture de voyage en laine rouge, jetée comme un châle sur les épaules. Elle nous offre l'eau fraîche et claire d'une gargoulette, présent rare car il n'y a point de source à Rapa Nui. Les indigènes ramassent de l'eau quand il pleut et la conservent dans des gourdes où elle a vite fait de se corrompre, ou bien vont en chercher au fond des cratères, dans des mares souvent taries. Quel dénuement et quelle tristesse dans cette solitaire demeure! Et dire qu'il serait impossible à cet homme de se procurer autre chose, même le voulant, puisqu'il n'y a rien nulle part. Ailleurs, les ermites, les reclus peuvent toujours, si l'angoisse les prend, s'en aller ou appeler au secours. Mais celui-là, on se sent froid à l'âme rien qu'en songeant à ce que doivent être pour lui les pluvieux crépuscules, les tombées de nuit, par mauvais temps les veillées d'hiver. Nous ne voulons pas abuser davantage de l'accueil de cette dame, d'autant plus que cela risquerait de tourner mal pour l'un de nous, ou même pour tous deux, et à l'heure du repas de nos canotiers, 10 heures, nous rentrons à bord, où depuis le matin sont commencés les préparatifs de l'enlèvement de la statue, l'amiral ayant décidé que ce serait aujourd'hui si possible, et que nous partirions ensuite pour l'Océanie. À midi, l'expédition est prête à aller chercher la grande idole. Dans la chaloupe de la frégate, on a embarqué d'énormes palans, une sorte de chariot improvisé, et une corvée de 100 hommes, sous la conduite d'un lieutenant de vaisseau. Mais je suis de service à bord, hélas, et je contemple mélancoliquement tout ce monde qui va partir. À la dernière minute, pourtant, l'amiral, dont je suis l'aspirant de majorité, me fait appeler sur son balcon. Il remettra demain ma journée de garde, à condition que je lui rapporte un croquis exact du Marahi avant qu'on en ait chargé en aspect. C'est étonnant ce que cela m'aura servi pendant cette campagne de savoir dessiner pour obtenir ainsi des permissions d'aller courir. Et je saute avec joie dans la chaloupe, déjà bordée de monde, où les matelots ont des figures de gens qui se rendent à une fête. Très chargée, la chaloupe a du mal à franchir les récifs par une passe nouvelle qui nous fera accoster dans une baie plus voisine du Marahi. Nous arrivons tout de même, mais on s'inquiète de ce que sera le retour, avec le poids de l'idole en plus. Il faudra sûrement faire 2 voyages pour ramener les 100 matelots. Les indigènes se sont réunis en masse sur la plage et poussent des cris perçants pour nous recevoir. Depuis hier, la nouvelle de l'enlèvement prochain de la statue s'est répandue parmi eux, et ils sont accourus de toutes parts pour nous regarder faire. Il en est venu même de ceux qui habitent la baie de la Pérouse, de l'autre côté de l'île. Aussi voyons-nous beaucoup de figures nouvelles. Le lieutenant de vaisseau qui commande la corvée tient à ce que les 100 hommes s'acheminent vers le Marahi en rang et en pas, les clairons sonnant la marche. Cette musique jamais entendue met la peuplade entière dans un état de joie indescriptible. Et ils deviennent difficiles à tenir en bon ordre, les matelots, avec toutes ces belles filles demi-nues qui autour d'eux gambattent et abusent. Au Marahi, par exemple, il y a plus de discipline possible. Cela devient une folle confusion de vareuses de marines et de chairs tatouées, une frénésie de mouvements et de tapages. Tout ce monde se frôle, se presse, chante, hurle et danse. Au bout d'une heure, à coups de pince et de levier, tout est bousculé, les statues plus chavirées, plus brisées, et on ne sait pas encore laquelle sera choisie. L'une qui paraît moins lourde et moins fruste est couchée, la tête en bas, le nez dans la terre. On ne connaît pas encore sa figure, il faut la retourner pour voir. Elle cède aux efforts des leviers manœuvrés à grands cris, pivote autour d'elle-même et retombe sur le dos avec un bruit sourd. Son retournement et sa chute donnent le signal d'une danse plus furieuse et d'une clameur plus haute. 20 sauvages lui sautent au ventre et y gambadent comme des forcenés. Ces vieux morts des races primitives, depuis qu'ils dorment là sous leur tumulus, n'ont jamais entendu pareil vacarme. Si ce n'est peut-être quand ces statues ont perdu l'équilibre, secouées toutes ensemble par quelques tremblements de terre ou bien tombant de vieillesse une à une, le front dans l'herbe. C'est bien celle-là, décidément, la dernière touchée et retournée, que nous allons emporter. Non pas tout son corps, mais seulement sa tête, sa grosse tête qui pèse déjà 4 ou 5 tonnes. Alors on se met en devoir de lui scier le cou. Par bonheur, elle est en une sorte de pierre volcanique assez friable, et les scie mort de bien en grinçant d'une manière affreuse. Ayant terminé dans la bousculade mes croquis pour l'amiral, je m'en vais, moi. La fin de la manœuvre et l'embarquement de l'idole massacrée ne m'intéressent plus. Avec mes fidèles, Atamou, Petero, Marie et Joaniraï, je m'en retourne vers la baie où sont les cases en roseau pour voir un peu à la réparation de ma couronne de plumes que Ouga m'a promis de finir ce soir même. Et je le trouve bien au travail, comme je l'espérais, ce brave petit sauvage. Il a coupé la queue à un coq noir pour remplacer les plumes avariées, et cela avance, cela prend vraiment très grand air. Le vieux chef, comme je passe devant sa grotte, m'appelle par signe. D'un air engageant et confidentiel, il me montre une poussière sombre qu'il tient enveloppée dans un étui de feuilles mortes et qu'il nomme tatou. C'est de la poudre à tatouer. Et puisque je semble apprécier l'industrie de Rapa Nui, il me propose de me faire sur les jambes quelques légers dessins bleus en échange de mon pantalon que je lui offrirai pour sa peine. Un autre vieillard aussi m'emmène chez lui pour échanger contre une boîte d'allumettes suédoises une paire de boucles d'oreilles en épines dorsales de requin. Je rapporterai donc ce soir encore 1000 choses étonnantes. Devant cette baie qui est devenue notre quartier général, il y a le cratère de Ranukaoul, le plus large peut-être et le plus régulièrement circulaire qui soit au monde. Vu du ciel, il doit faire l'effet de ce que les télescopes nous révèlent dans la lune. C'est un colisée immense et magnifique dans lequel manœuvrerait aisément toute une armée. Le dernier des rois de Rapa Nui était monté s'y cacher avec son peuple lors de l'invasion péruvienne, et là eut lieu le grand massacre. Les sentiers qui mènent sont remplis d'ossements et des squelettes entiers apparaissent encore couchés dans l'herbe. À l'extrême déclin du soleil, je reviens m'asseoir avec mes 5 amis en face de la mer, au point où nous avons déjà pris l'habitude d'attendre ensemble l'arrivée des canots. Ce sera la dernière fois peut-être, car j'aperçois là-bas au loin la chaloupe qui retourne à bord, et au milieu de l'entassement des matelots vêtus de blanc, la grosse tête brune de l'idole qui s'en va en leur compagnie. Donc la manœuvre s'est terminée à souhait et nous avons chance de partir demain. Je dis presque tant pis, car volontiers je serais resté encore. Mais le soir, au moment de me coucher dans mon hamac, je suis appelé chez le commandant et je pressens du nouveau pour la journée suivante. Il m'annonce en effet que le départ est ajourné de 24 heures. Demain, il a le projet de se rendre avec quelques officiers dans la région la plus éloignée, où des idoles très différentes de celles à notre connaissance restent encore debout. La course, probablement, sera pénible et longue. Sur la carte que nous examinons ensemble, cela fait, pris à vol d'oiseau avec un compas, 6 lieues qui représentent bien 7 ou 8 avec les détours, les montées et les descentes. Et il me demande si je veux l'accompagner. J'en meurs d'envie, cela va sans dire. Mais demain, je suis de garde, hélas, moi, m'étant promené aujourd'hui tout le jour. Oh ça, dit-il, j'en fais mon affaire avec l'amiral. Et il ajoute en riant. À une condition. Ah ah oui, les dessins. Il va falloir que je dessine les statues sur toutes les faces et pour tout le monde. Tant qu'on voudra, pourvu qu'on m'emmène. 6 janvier. Avant 4 heures du matin, par une nuit encore noire, sous un ciel épais, nous quittons la frégate. Et avant jour, nous atteignons la plage, choisissant pour débarquer un point difficile et solitaire, afin de ne pas donner l'éveil aux indigènes qui tous voudraient nous suivre. Nous sommes 4 de l'état-major, le commandement, 2 officiers et moi. Le vieux Danois et un Maori de confiance nous guident. 3 matelots rompus à la marche nous suivent, portant à l'épaule notre déjeuner et le leur. Du côté des cases, là-bas, on voit briller des feux dans l'herbe. D'abord, nous passons près du marae dévasté hier, dont l'aspect est sinistre. Le ciel est voilé tout d'une pièce, sauf une déchirure au ras de l'horizon oriental qui laisse voir une lueur jaune annonçant la fin de la nuit. Tous à la file, à travers l'herbe mouillée, nous nous dirigeons vers l'intérieur de l'île, qu'il faudra traverser d'un bout à l'autre et au bout d'une demi-heure, derrière un repli de collines, la mer et les feux lointains de la frégate disparaissent pour nos yeux, ce qui nous isole soudainement davantage. Nous nous enfonçons dans cette partie centrale de l'île que couvre sur la carte du commandant le mot Tekau Kanguaru, écrit en grosses lettres de la main de l'évêque de Tahiti. Tekau Kanguaru est le premier de ces noms que les Polynésiens donnèrent à ce pays. Plus encore que le nom de Rapa-Hui, il sonne la sauvagerie triste au milieu de vent et ténèbres. Dans les temps même où la population était nombreuse, il paraît que ce territoire central restait inhabité. Il en va de même, d'ailleurs, dans les autres îles peuplées par les Maoris, qui sont une race de pêcheurs et de marins vivant surtout de la mer. Ainsi, le centre de Tahiti et celui de Nuku'iwa, malgré une végétation admirable et des forêts pleines de fleurs, n'a jamais cessé d'être un silencieux désert. Mais pas de forêt ici à Rapa Nui, pas d'arbres, rien. Des plaines dénudées, funèbres, plantées d'innombrables petites pyramides de pierre, on dirait des cimetières n'en finissant plus. Le jour se lève, mais le ciel reste très sombre, une pluie fine commence à tomber. Et nous avons beau avancer toujours, notre horizon demeure fermé de tous côtés par des cratères qui se succèdent, pareils, avec la même forme en tronc de cône, la même coloration brune. Nous sommes jusqu'aux genoux dans l'herbe mouillée. Cette herbe aussi est toujours la même. Elle couvre l'île dans toute son étendue. C'est une sorte de plante rude d'un vert grisâtre, à tige ligneuse garnie d'imperceptibles fleurs violettes. Il en sort des milliers de ces petits insectes qu'on appelle en France des éphémères. Quant aux pyramides que nous continuons de rencontrer à chaque pas, elles sont composées de pierres brutes que l'on a simplement posées les unes sur les autres. Le temps les a rendues noires. Oh, elles paraissent être là depuis des siècles. Voici cependant une vallée où la végétation change un peu. Il y croît des fougères, des cannes à sucre sauvages, de maigres buissons de mimosa, et aussi quelques autres arbrisseaux courts que les officiers reconnaissent pour être d'essence très répandue en Océanie, mais qui là-bas deviennent des arbres. Mais est-ce que les hommes les ont apportés? Ou bien vivent-ils ici depuis le grand mystère des origines? Et alors pourquoi sont-ils restés à l'état de broussailles dans ce recoin unique, au lieu de se développer comme ailleurs et d'envahir? Vers 9h30 enfin, ayant traversé l'île dans sa plus grande largeur, nous voyons de nouveau se déployer devant nous les lignes blanches de l'océan Pacifique. Et la pluie cesse, et les nuages se déchirent, et le soleil paraît. Vraiment, nous sortons de Kaugangawaru comme on s'éveillerait d'un cauchemar d'obscurité et de pluie. Il y a même dans le lointain, près de la mer, quelque chose qui ressemble à une maisonnette d'Européens. Et c'est, nous dit le Robinson danois, la troisième des habitations que les missionnaires avaient jadis construites. Dans ce lieu qui s'appelle Vaihu, il y avait en ce temps-là une tribu heureuse qui vivait au bord de la plage. Mais plus personne aujourd'hui. Vaihu est un désert et la maisonnette tombe en ruine. Nous apercevons déjà le cratère de Ranorakaku, au pied duquel nous trouvons, paraît-il, ces statues amoncelées, différentes de toutes les autres, plus étanches et encore debout. Nous n'en sommes bientôt plus qu'à 2 lieues et ce sera le terme de notre voyage. Donc ici, dans la maison vide, nous nous arrêterons pour déjeuner. D'abord, cela soulagera plutôt les épaules de nos marins, et puis nous aurons au moins l'abri d'un reste de toiture. Une sauvagesse, très vieille et d'affreuse laideur, se montre sur la porte. Ensuite vient à nous avec des sourires craintifs. C'est la seule créature vivante rencontrée sur notre chemin. Elle a fait son gîte de cette petite ruine solitaire, et sans doute elle est quelque fille de la tribu disparue. Mais de quoi vit-elle et qu'est-ce qu'elle peut bien manger? Des racines, probablement, des lichens, avec des poissons qu'elle pêche. À partir de Vaihu, le pays que nous traversons est sillonné de sentiers aussi battus et piétinés que s'il y passait chaque jour une foule nombreuse. Et cependant, tout est désert. On nous l'avait dit et nous le voyons bien. Notre guide indigène nous assure même qu'à part cette vieille femme, on ne trouverait pas un être humain à 5 lieues à la ronde. Alors que penser? Dans cette île, tout est pour inquiéter l'imagination. Le lieu dont nous continuons de nous approcher a dû être dans la nuit du passé quelque centre d'adoration, temple ou nécropole, car voici maintenant que la région entière s'encombre de ruines. Assises de pierres cyclopéennes, restent d'épaisses murailles et débris de constructions gigantesques. Et l'herbe de plus en plus haute recouvre ses traces des mystérieux temps. L'herbe à tige ligneuse, comme celle du genêt, toujours, toujours la même herbe et du même vert décoloré. Nous cheminons à présent le long de la mer. Au bord des plages, sur les falaises, il y a des terrasses faites de pierres immenses. On y montait jadis par des gradins semblables à ceux des anciennes pagodes hindoues, et elles étaient chargées de pesantes idoles qui sont renversées aujourd'hui, la tête en bas, le visage enfoui dans les décombres. L'esprit des sables et l'esprit des rochers, l'un et l'autre gardiens des îles contre l'envahissement des mers, tels sont les personnages des vieilles théogonies polynésiennes que ces statues figuraient. C'est ici, au milieu des ruines, que les missionnaires découvrirent quantité de petites tablettes en bois gravées d'hiéroglyphes. L'évêque de Tahiti les possède aujourd'hui et sans doute donnerait-elle le mot de la grande énigme de Rapainui, si l'on parvenait à les traduire. Les dieux se multiplient toujours à mesure que nous avançons vers le Ranorakaku, et leurs dimensions aussi s'accroissent. Nous en mesurons de 10 et même de 11 mètres en un seul bloc. On ne les trouve plus seulement au pied des terrasses. Le sol en est jonché. On voit partout leurs informes masses brunes émerger des hautes herbes. Leurs coiffures, qui étaient des espèces de turbans, en une lave différente et d'un rouge de sanguine, ont roulé çà et là, aux instants des chutes, et l'on dirait de monstrueuses pierres meulières. Près d'un tumulus, un entassement de mâchoires et de crânes calcinés semble témoigner de sacrifices humains qui se seraient accomplis là, durant quelques longues périodes. Et, autre mystère, des routes dallées, comme étaient les voies romaines, descendent, se perdent dans l'océan. Des mâchoires, des crânes, on en trouve du reste ici partout. On ne peut nulle part soulever un peu de terre sans remettre des débris humains, comme si ce pays était un ossuaire immense. C'est que, à une époque dont l'épouvante s'est transmise jusqu'aux vieillards de nos jours, les hommes de Rapanui connurent l'horreur d'être trop nombreux, de s'affamer, de s'étouffer dans leur île dont ils ne savaient plus sortir. Alors survinrent entre les tribus de grandes guerres d'extermination et de cannibalisme. C'était en des temps où l'existence de l'Océanie n'était même pas soupçonnée par les hommes blancs. Mais au siècle dernier, lorsque passa Vancouver, il trouva encore dans cette île qui n'avait déjà plus que 2000 habitants à peine, des traces de camps retranchés sur toutes les montagnes, des restes de fortifications en palissade au bord de tous les cratères. Tant de blocs taillés, remués, transportés et érigés attestent la présence ici pendant des siècles d'une race puissante, habile à travailler les pierres et possédant d'inexplicables moyens d'exécution. Aux origines, presque tous les peuples ont ainsi traversé une phase mégalithique durant laquelle des forces que nous ignorons leur obéissaient. Par ailleurs, l'île semble bien petite en proportion de cette zone considérable occupée par les monuments et les idoles. Était-ce donc une île sacrée où l'on venait de loin pour des cérémonies religieuses, à l'époque très ancienne de la splendeur des Polynésiens, quand les rois des archipels avaient encore des pirogues de guerre capables d'affronter les tempêtes du large et de tous les points du grand océan, s'assemblaient dans les cavernes pour y tenir conseil en une langue secrète? Ou bien ce pays est-il un lambeau de quelque continent submergé, jadis comme celui des Atlantes? Ces routes plongeant dans les eaux sembleraient l'indiquer. Mais les légendes maoris ne font point mention de cela. Et tandis que l'Atlantide, en sombrant, enfermée sous la mer des plateaux gigantesques, ici, autour de l'île de Pâques, tout de suite les profondeurs insondables commencent. Cependant, une fatigue à la fin et comme une anxiété nous viennent de cette interminable marche en fil espacé entre les hautes herbes, dans ces étroits sentiers de sauvages au milieu de tant de désolation, de mystère et de silence. D'ailleurs, ces statues couchées que nous rencontrons à chaque pas sont de tout point semblables à celles que nous connaissions déjà, plus grandes seulement, mais de même forme et de même visage. Et nous réclamons à notre guide les autres que nous étions venus voir, les autres statues, les différentes qui se tiennent encore debout. « Tout à l'heure, nous dit-il, là-bas, sur le flanc du Ramoraku, c'est là qu'on les trouve, mais rien que là, en un groupe unique. » Du reste, les sentiers maintenant abandonnent la rive et tournent vers l'intérieur des terres dans la direction du volcan. Il y a 1 heure et demie environ que nous avons repris notre route depuis la halte de Vaiou, lorsque nous commençons de distinguer, debout au versant de cette montagne, de grands personnages qui projettent sur l'herbe triste des ombres démesurées. Ils sont plantés sans ordre et regardent presque tous de notre côté, comme pour savoir qui arrive, bien que nous apercevions aussi quelques longs profils à nez pointu tournés vers ailleurs. C'est bien eux, cette fois, eux, auxquels nous venions faire visite. Notre attente n'est point déçue, et involontairement nous parlons plus bas à leur approche. En effet, ils ne ressemblent en rien à ceux qui dormaient, couchés par légion, sur notre passage. Bien qu'ils paraissent remonter à une époque plus reculée, ils sont l'œuvre d'artistes moins enfantins. On a su leur donner une expression, et ils font peur. Et puis ils n'ont pas de corps. Ils ne sont que des têtes colossales, sortant de terre au bout de longs coups, et se dressant comme pour sonder ces lointains toujours immobiles et vides. De quelle race humaine représentent-ils le type, avec leur nez à pointe relevée et leurs lèvres minces, qui s'avancent en une moue de dédain ou de moquerie? Point d'yeux, rien que deux cavités profondes sous le front, sous l'arcade sourcilière qui est vaste et noble. Cependant, ils ont l'air de regarder et de penser. De chaque côté de leurs joues descendent des saillies qui représentaient peut-être des coiffures dans le genre du bonnet des sphinx ou bien des oreilles écartées, plates. Leur taille varie entre 5 et 8 mètres. Quelques-uns portent des colliers faits d'incrustations de silex ou des tatouages dessinés en creux. Vraisemblablement, ils ne sont point l'œuvre des Maoris, ceux-là. D'après la tradition que les vieillards conservent, ils auraient précédé l'arrivée des ancêtres. Les migrateurs de Polynésie, en débarquant de leur pirogue, il y a un millier d'années, auraient trouvé l'île depuis longtemps déserte, gardée seulement par ses monstrueux visages. Quelle race, aujourd'hui disparue, sans laisser d'autres souvenirs dans l'histoire humaine, aurait donc vécu ici jadis? Et comment se serait-elle éteinte? Et qui dira jamais l'âge de ces dieux? Tout rongés de lichen, ils paraissent avoir la patine des siècles qui ne se compte plus, comme les menhirs celtiques. Il y en a aussi de tombés et de brisés. D'autres que le temps, l'exhaussement du sol ont enfoui jusqu'aux narines, semblent renifler la terre. Sur eux flamboie à cette heure le soleil méridien, le soleil tropical, qui exagère leur expression dure, en mettant plus de noir dans leurs orbites sous le relief de leur front. Et la pente du terrain allonge leurs ombres sur cette herbe de cimetière. Au ciel, quelques derniers lambeaux de nuages achèvent de se dissiper, de se fondre dans du bleu violent et magnifique. Le vent s'est calmé, tout est devenu tranquillité et silence autour des vieilles idoles. D'ailleurs, quand l'Elysée ne souffle plus, qui troublerait la paix funèbre de ce lieu? Qui remuerait son linceul uniforme d'herbage, puisqu'il n'y a jamais personne et qu'il n'existe dans l'île aucune bête, ni oiseau, ni serpent, rien que les papillons blancs, les papillons jaunes, et les mouches qui bourdonnent en sourdine. Nous sommes à mi-montagne, ici, au milieu des sourires de ces grands visages de pierre. Au-dessus de nos têtes, nous avons les rebords du cratère éteint, sous nos pieds la plaine déserte jonchée de statues et de ruines, et pour horizon, les infinis d'une mer presque éternellement sans navire. Ces mornes figures, ces groupes figés au soleil, vite, vite, il me faut, puisque je l'ai promis, les esquisser sur mon album, tandis que mes compagnons s'endorment dans l'herbe. Et ma hâte fiévreuse à noter tous ces aspects, malgré la fatigue et le sommeil impérieux contre lesquels je me défends, ma hâte est pour rendre plus particulier et plus étrange encore les souvenirs que cette vision m'aura laissés. En effet, tout de suite après, c'est le départ, car le commandement s'inquiète, et nous aussi, de la trop longue route que nous avons à refaire avant la nuit à travers les solitudes centrales. Le départ avec la certitude que jamais dans notre vie nous ne reviendrons en visite chez ces dieux au fond de leur invraisemblable domaine. Vers 2 heures donc, au plus brûlant de la journée, recevant dans les yeux, juste en face, un soleil que rien ne voile plus, Nous le remettons en marche pour le retour, à la file, dans ces étroits sentiers dont l'existence ne s'explique pas, ayant toujours cette même herbe autour de nous, jusqu'à mi-jambe ou jusqu'à la ceinture. Et malgré les averses du matin, cette herbe n'est même pas humide, le sol non plus. Comment ce pays peut-il sécher si vite et sa terre devenir en quelques heures si poussiéreuse au milieu des immenses nappes marines qui l'environnent? Et puis, c'est singulier quand on y réfléchit. La persistance de cette île et l'enfer, son air de quiétude au milieu du grand océan, qui, dirait-on, ne vient mouiller que ses plages de corail, sans vouloir jamais franchir une ligne convenue. Il suffirait pourtant du dénivellement le plus léger dans les effroyables masses liquides pour submerger ce rien qui, depuis tant d'années, chauffe au soleil son peuple d'idoles. Et, la fatigue aidant, je crois que peu à peu l'âme des anciens hommes de Rapa Nui pénètre la mienne, à mesure que je contemple à l'horizon le cercle souverain de la mer. Voici que je partage leur angoisse devant l'énormité des eaux, et que tout à l'heure, je les comprends d'avoir accumulé au bout de leur terre infime ces géantes figures de l'esprit des sables et de l'esprit des roches, afin de tenir en respect, sous tant de regards fixes, la terrible et mouvante puissance bleue. Au crépuscule, nous sommes de retour à la région habitée, en face du mouillage de notre frégate. Les timoniers, avec des longues vues, guettaient notre arrivée, et une embarcation se détache aussitôt du bord pour venir nous prendre. J'ai juste le temps de m'asseoir une dernière fois devant la mer, à la nuit tombante, au milieu de mes 5 amis sauvages, et nous attendons ensemble le canot qui m'emportera pour toujours. Ils ont l'air très frappés de mon départ, et me disent avec mélancolie, sous la voûte des nuages ramenés par le vent du soir, plusieurs choses que je voudrais mieux entendre. Quant à moi, j'éprouve un serrement de cœur en leur faisant mes adieux, car ce sont de grands adieux et entre nous l'éternité commence. L'appareillage est fixé à 6 heures demain matin, et pour sûr, je ne reviendrai jamais. Le soir, à bord, j'ai entre les mains, pour la première fois, une des tablettes hiéroglyphiques de Rapa Nui que le commandant possède et m'a confiée, un de ces bois qui parlent, ainsi que les Maoris les appellent. Elle est en forme de carré allongé aux angles arrondis. Elle a dû être polie par quelques moyens primitifs, sans doute par le frottement d'un silex. Le bois, rapporté on ne sait d'où, en est extrêmement vieux et desséché. Oh, la troublante et mystérieuse petite planche, dont les secrets à présent demeureront à jamais impénétrables. Sur plusieurs rangs, des caractères gravés s'y alignent, comme ceux d'Égypte, ils figurent des hommes, des animaux, des objets. On y reconnaît des personnages assis ou debout, des poissons, des tortues, des lances. Ils éternisaient ce langage sacré, inintelligible pour les autres hommes, que les grands chefs parlaient au conseil tenu dans les cavernes. Ils avaient un sens ésotérique. Ils signifiaient des choses profondes et cachées que seuls pouvaient comprendre les rois ou les prêtres initiés. On m'appelle. C'est de la part de l'amiral. Ce soir, et comme hier, comme avant-hier, quand on m'avait appelé ainsi à des heures insolites, je pressens du nouveau qui pourrait bien me ramener encore une fois dans l'île sombre. En effet, l'amiral souhaiterait posséder un dieu en pierre remplissant certaines conditions de taille et de physionomie. Comme il sait que son aspirant de majorité a beaucoup fréquenté dans les cases, il me demande si je me chargerai de lui procurer cela et de le faire vite demain au petit jour sans retarder le départ de la frégate qui reste fixée à 6 heures. Justement, j'en connais une idole qui répond à son idéal. chez le vieux chef lui-même. Je prends l'engagement de la lui rapporter avant l'appareillage, en échange d'une redingote qu'il me confiera. Et charmé de retourner encore à Rapa Nui, je prépare, avant de m'endormir, plusieurs phrases de langue polynésienne pour une dernière et suprême causerie avec mes amis sauvages. À 4 heures du matin, je suis en route dans la baleinière de l'amiral. Par hasard, le temps est calme, mais si couvert, si noir. Depuis notre arrivée, c'est la même chose à la fin de chaque nuit. Un voile obscur, tout d'une pièce, retarde le lever du jour sur l'île et sur la mer. Et me voici donc, une fois de plus, dans la demi-obscurité matinale, au milieu des brisants et des récifs, revenant vers la baie où je ne pensais plus reparaître. Les aspects encore nocturnes de ce rivage sont aussi fantastiques aujourd'hui que le matin de ma première visite. De lourdes ténèbres demeurent dans les fonds, sur les vieux volcans morts, tandis que s'éclairent déjà vaguement les grèves. Çà et là, parmi les roches et les cases à peine dessinées, brillent des feux dans l'herbe, dansent des flammes jaunes, et devant l'on voit passer les ombres de quelques sauvagesses qui rôdent alentour en surveillant des cuissons de racines ou d'ignames. Et à mesure qu'on approche des odeurs de fumée vous viennent, des odeurs de fauves, de tanières, et ces formes nues, ces attitudes primitives que la lueur des feux révèle, sont pour plonger l'esprit dans un rêve des anciens temps. Cela devait être ainsi, une aube préhistorique, dans des régions nuageuses, commençant d'éclairer le réveil et la petite activité d'une tribu humaine à l'âge de pierre. Les femmes, sans doute, circulent ici plus tôt que les hommes, car je suis d'abord rencontré et reconnu par Juanita et Marie. On ne pensait plus me revoir, ni moi ni aucun de nous. Grand cri de joie, on court chez le vieux chef, l'avertir que c'est à lui que j'ai affaire et que c'est pressé. Il sort au-devant de moi, le marché est agréé, en échange de son idole, que deux de mes matelots emportent sur leurs mains nouées en chaise, je lui livre la belle redingote de l'amiral et il l'endosse sur le champ. Pas de temps à perdre, il faut redescendre la course vers la plage. En peu d'instants, mes amis sont tous sur pied pour me voir encore, Euga, éveillé en sursaut, se présente enveloppé d'un manteau en écorce d'arbre. Et puis j'entends derrière moi courir Amatamou et enfin Pétéro, le maigre farfadet. Ce sont bien nos derniers adieux cette fois-ci. Dans quelques heures, l'île de Pâques aura disparu à mes yeux pour toujours. Et vraiment un peu d'amitié avait jailli entre nous, de nos différences profondes peut-être, ou bien de notre enfantillage pareil. Il fait presque jour quand je me rembarque dans la baleinière avec l'idole. Mes 5 amis restent sur la grève pour me suivre jusqu'à perte de vue. Seul le vieux chef qui était descendu avec eux pour me reconduire remonte lentement vers sa case. Et le voyant si ridicule et lamentable avec sa redingote d'amiral, d'où sortent deux longues jambes tatouées, j'ai le sentiment de lui avoir manqué de respect, d'avoir commis envers lui une faute de lèse-sauvagerie. Pierre Loti.